Le hit chez nous, c'est un des vidéos préférées de James. Et puis, il aime beaucoup. James, c'est mon plus vieux. Il a maintenant 3 ans et demi. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a beaucoup de bonnes valeurs qui sont véhiculées à travers ce petit DVD-là. Beaucoup de chansons, ainsi de suite. Puis, des bons principes, des grands principes. C'était quoi le principe dans ce vidéo-là qui était véhiculé si on regarde d'un point de vue éducatif? La confiance à Dieu. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est pas compliqué, hein? Bon, c'est ça que j'avais à dire ce matin. C'est pas plus compliqué. Si vous avez compris, c'est pas compliqué, tout est parfait. C'est Dieu qui le fait. Puis, c'est incroyable de voir à quel point c'est pas compliqué dans la tête des enfants. C'est ça. Des fois, je parle avec James, puis avant de le coucher, il dit « Oui, papa, il y a des monstres. » Et puis là, c'est ça. Là, j'ai dit « James, c'est quoi qu'on fait quand il y a des monstres? » On demande à Jésus de faire en aller les monstres. Puis là, il dit « Vas-y, James. » Là, il dit « Jésus, est-ce que tu veux que les monstres rentrent chez eux? S'il vous plaît, est-ce que tu peux les renvoyer? » Et puis là, j'ai dit « C'est quoi que Jésus t'a répondu? » Il dit « Il a dit oui. » Puis là, il se couche, puis on l'entend plus. C'est fini. C'est pas compliqué, c'est incroyable. Les coins sont carrés. Hein? C'est le jour et la nuit. C'est incroyable la foi que les enfants ont dans les paroles qu'on leur dit, dans les choses qu'on leur fait. Mais le problème, c'est qu'avec cette foi-là, malheureusement, c'est qu'ils grandissent. Et puis, trop souvent, ce qu'on voit, c'est que cette foi d'enfant-là disparaît. La vie ramène les gens sur terre. Mais ça, c'était pas compliqué quand on avait des enfants. Ça, avant que je me marie, c'était pas compliqué. J'étais tout seul avec moi-même, puis mes problèmes, c'était mes problèmes, puis moi, ce que je voyais comme étant pas un problème, c'était pas un problème, puis c'est ça. Mais ma femme, elle me trouvait des problèmes, en tout cas, que je voyais pas. Mais finalement, c'était réellement des problèmes. Mais quand on est un enfant, la vie n'est pas compliquée. Ce qu'on recherche, c'est être aimé. Ce qu'on recherche, c'est des choses simples. C'est pas compliqué. Puis, quand on se présente le Seigneur aux enfants, ils sont des éponges. Et puis, à travers les événements qui arrivent dans la vie, bien, on enseigne aux enfants, puis on leur dit, « Regarde, Seigneur a pourvu à tel moment, Seigneur nous a permis qu'on ait une maison quand c'était pratiquement impensable d'en avoir une pour nous présentement, mais le Seigneur a pourvu. Puis pour lui, le Seigneur, quand on parle de la maison, pourquoi papa tu vas travailler? Bien, pour être capable de payer la maison, pour être capable de manger. La maison que le Seigneur nous a donnée, oui, c'est ça. Ça, c'est tellement pas compliqué. Hein? Mais malheureusement, la vie ramène les gens sur terre. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, bien, il y a des événements, il y a des épreuves, il y a des incompréhensions des fois qui se placent dans leur vie qui amènent peut-être les gens à douter du Seigneur, malgré ces évidences-là qu'il y avait. Ce matin, j'aimerais vous amener dans un texte dans l'Ancien Testament. C'est pas Abraham. J'ai choisi cette chanson-là pour le refrain. Les enfants chantent ça avec assurance. Ils en sont convaincus et c'est vrai qu'ils en sont convaincus. Je veux pas négliger la foi d'un enfant. Elle est super importante et on sait tous que c'est cette foi-là qu'on doit avoir nous aussi en tant qu'adultes. On doit avoir une foi d'enfant. C'est très important. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13, et puis on va commencer au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. On est ici, le peuple d'Israël vient d'arriver aux bordures du pays de Canaan, puis Dieu leur demande de rentrer dans le pays. Ils viennent de sortir de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, le désert. Et puis là, ils arrivent, puis ils ont envoyé des espions pour explorer le pays. Ils sont partis pendant 40 jours, et puis là, ils reviennent avec le rapport qu'ils font au peuple. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits, comme le Seigneur leur avait dit. » 28. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak, des astres, c'est des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Canaéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décidèrent devant les enfants d'Israël et le pays qu'ils avaient exploré et dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » C'est peut-être même pas littéral, extrapoler, là, c'est peut-être vrai. Où il dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça devait pas être des gens gentils avec les ennemis. Puis c'est un peu ça qu'ils veulent mettre en évidence ici. Des pays, ils sont des habitants qui dévorent. Un pays qui dévore ses habitants. C'est quand même quelque chose, là. On continue au verset 14. « Toute l'assemblée élève la voix et pousse des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. C'est quand même quelque chose, hein? Avec tout ce que le peuple d'Israël a traversé. Écoute, ça fait 2 ans maintenant là, qu'ils marchent dans le désert. Jour et nuit, le Seigneur marchait devant eux. Le jour, c'était une nuée, puis la nuit, c'était une nuée de feu. Jour et nuit, le Seigneur était avec eux. Il a pourvu avec la manne, il a pourvu toutes sortes de façons. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Et puis là, une autre catastrophe, si on peut dire. Le peuple de Dieu se rebelle encore contre le Seigneur. Malgré toutes les évidences qu'il y avait sous leurs yeux. Il y a 3 choses que le peuple ici remet en question. 3. Et puis, c'est pas rien. Dans le verset 14, du verset 1 jusqu'à 4, de verset 1 à 4, on voit la plainte que le peuple fait. Puis c'est là c'est réellement un acte de rébellion flagrant. Ils vont remettre en question 3 choses. Ils vont remettre en question la parole de Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Vous allez avoir ce pays-là. La 2e chose qu'ils remettent en question, la puissance de Dieu. Puis la 3e, sa bonté. La puissance de Dieu, parce que c'est impossible. On ne peut pas les battre. Ils sont bien plus forts que nous autres. On ne peut pas y arriver. C'est ben trop gros, c'est des géants, on est des sauterelles à leurs yeux. Le Seigneur est... Non, ça marche pas, le Seigneur est pas assez fort. Donc, ils remettent réellement la puissance du Seigneur en doute. Sa bonté, ils disent, verset 3, « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays-là, où nous tomberons par l'épée et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? » Il est fou. Dans le fond, il nous envoie nous tuer. C'est ça qu'il veut, là, le Seigneur. Là. Mourir dans le désert ou mourir en Égypte. J'aime bien mieux mourir en Égypte. Fait qu'on va se prendre un chef. Et puis, on va retourner en Égypte, ça va être bien moins compliqué comme ça, puis le problème va être réglé. Hein? On a trouvé la solution. Seigneur, c'est comme s'il ne pense pas que le Seigneur est assez puissant. C'est comme s'il se dit, le Seigneur, je ne peux pas y faire confiance en ce qu'il dit. Et puis, Seigneur, il ne prend pas soin de nous. Il remet trois choses sérieuses en question. C'est pas rien, là. Souvent, les épreuves dans nos vies vont montrer réellement qui nous sommes en dedans. Devant une épreuve, devant un obstacle, c'est là qu'on voit notre vrai caractère. C'est là que notre foi est mise en épreuve. Puis c'est ce qui se passe avec Israël ici présentement. Ils font face à un mur. Écoute là. Ça fait 2 ans qu'ils marchent dans le désert. Ça fait 2 ans que le Seigneur miroite des promesses qui vont rentrer dans le pays. Et puis là. C'est le temps de sauter là dans le vide. Là. C'est le temps, là, t'es sous le pied de la falaise. Ça fait 2 ans qu'on se rend à la falaise. Et puis là, c'est le temps, là. Puis là, en bas, là, c'est creux, c'est gros, là. Puis là, il faut sauter. J'ai pas vérifié, mais le Seigneur dit que j'ai un parachute puis qu'il va s'ouvrir quand le moment va être là, mais j'ai pas de corde pour l'ouvrir, moi. Mais ça a l'air que le Seigneur, il dit que c'est lui qui va l'ouvrir, le parachute. C'est un peu ça, la mise en situation. Faut qu'il ait confiance au Seigneur. Et puis là, cette confiance-là semble manquer, en tout cas. C'est ce que le texte met en évidence. Et puis, les épreuves vont souvent montrer notre vrai caractère, montrer la foi qu'on a dans nos tripes. C'est une mise à l'épreuve. Le mot le dit. C'est une mise à l'épreuve. À l'épreuve de quoi? Bien souvent, c'est de la foi. Puis regardez, on va continuer un peu. On va sauter au verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Parce qu'au verset 9, Caleb dit une parole, il dit « Allons-y, rebellez-vous pas, puis le Seigneur va nous le donner, le pays. On y va. » Verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Quand même pas pire, hein? Ils réagissent assez fort, ils sont convaincus, là. Quelqu'un se lève, puis dit « Faut qu'on fasse confiance au Seigneur. » Ils pognent les roches, puis ils veulent le faire taire. Ils réagissent fort, sont peut-être un peu colérés. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut, soudain, quand ils ont voulu faire ça, c'était leur intention, le Seigneur apparaît, puis les arrête. La gloire du Seigneur apparaît sur la tente d'assignation, devant nous, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Je les frapperai par la peste, je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savent que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient devant lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'ils avaient juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé. » Le Seigneur continue, puis il donne la sentence. La sentence, c'est que cette génération-là ne rentrera pas dans le pays de Canaan. Et puis Dieu leur demande de faire une chose, c'est de se tourner de bord et puis de retourner vers la mer Rouge, où est-ce qu'ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. Jusque-là, la prochaine génération va arriver, puis eux vont rentrer dans le pays avec Josué et puis Caleb à leur tête. La réponse de Moïse est assez incroyable. Souvenez les trois éléments que le peuple s'est rebellé contre le Seigneur. Trois choses, contre sa parole, contre sa puissance et puis contre sa bonté. Et puis c'est exactement ces trois éléments-là que Moïse soulève quand il parle au Seigneur. Il fait appel à ces trois éléments-là, à la parole de Dieu. Maintenant, verset 17, que la puissance du Seigneur se montre dans la grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, ainsi de suite. Donc, Moïse, il dit, Seigneur, si tu fais ça, ben, comment est-ce que tu vas accomplir la promesse que tu nous as faite? Puis, tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Donc, Seigneur, tu peux pas faire ça. Comme tu l'as déclaré en disant. Donc, Moïse, il fait appel. Seigneur, tu es un Dieu de parole, première des choses. Après ça, il dit la bonté et puis la puissance, c'est entre le verset 13 et 16, où est-ce qu'il met en évidence que s'il détruit le peuple, on va lire, les Égyptiens l'apprendront, et eux du milieu desquels il a fait monter ce peuple par ta puissance, ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que apparaît visiblement, toi. Là, il continue. Si tu les fais mourir, les autres peuples vont dire, mais c'est parce que l'Éternel n'avait pas la puissance pour les faire entrer dans le pays. Comprenez? Il n'avait pas la puissance. Puis s'il les fait détruire, ben là, on dit que c'est un Dieu bon, miséricorde, qui pardonne, puis là, il vient de les détruire. Et où sa bonté, puis où l'aspect qui prend soin? Comprenez? Moïse, il soulève ces trois aspects-là. C'était les trois aspects qu'il y avait une rébellion. Que le peuple avait une rébellion. Mais si on se met un peu dans le contexte, il y a 2 millions de personnes, et puis là, Dieu dit, je vais les faire mourir comme un seul homme. Dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé combien de fois que 2 millions de personnes meurent en même temps? Et puis, si ça l'arrivait, qu'est-ce qui se passerait dans les nouvelles? On en entendrait parler, hein? Énormément. Puis, avec les années passées, les tragédies qui sont arrivées dans le monde, on en a entendu parler beaucoup, puis c'était réellement, c'est affreux. Les gens sont morts. Les femmes, les enfants sont orphelins. Pensez à tout ça. C'est une tragédie. Il y a des pertes énormes. Les parents sont morts, les enfants sont morts. Pensez aux jeunes mariés qui venaient juste de se marier, puis là, bang, ils viennent de mourir. Ceux qui attendaient des enfants ne peuvent pas avoir la joie d'avoir un enfant. Hey, c'est affreux. Ceux qui avaient des carrières prometteuses, c'est mort, c'est fini. Pensez-y, là. C'est affreux. 2 millions de personnes qui meurent, 2 millions de vies finies. Puis Moïse en parle même pas. Il vit-tu sur la même planète que nous autres? Jamais Moïse va être devant Dieu et dire, Seigneur, pense aux enfants! Seigneur, hein? Pense à toutes les vies! Les jeunes mariés, là, qui sont heureux puis qui ont toute la vie devant eux autres, là, ça va être fini! Pense-y, Seigneur, là! Tu vas tout détruire ça, là! Hé, hé, hé! C'est affreux! C'est vrai que c'est affreux! Jamais Moïse va en parler. Pourquoi? Parce que la principale chose que Moïse avait en tête présentement, c'était la gloire de Dieu, et non le peuple. Seigneur, si tu fais ça, ta gloire, qu'est-ce qui va en arriver? Tu vas être la risée de tous les peuples. Puis regardez le verset 20. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Puis là, 21, il dit, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Le Seigneur avait bien compris ce que Moïse lui expliquait. C'est un peu paradoxal, là. Le Seigneur est au-dessus de tout ça. Mais dans la relation qu'il y avait avec Moïse, c'est quand même particulier. Le Seigneur il dit, « Ma gloire va resplendir sur toute la terre. » Puis c'est la seule raison pourquoi est-ce que ce peuple-là, présentement, ne mourra pas comme un seul homme à l'instant même. Les 10 personnes qui ont été explorer le pays, eux, par exemple, ils sont morts sur le champ pour avoir rapporté ces paroles-là puis avoir encouragé le peuple à se détourner du Seigneur. Mais l'Éternel a pardonné. Moïse avait dans sa tête la gloire du Seigneur. Mais ça, c'est prendre la pensée naturelle, la pensée normale dans nos têtes, puis la virer 180 degrés. Mais Sam, il pense complètement le contraire de ce que nous autres, on a comme réflexe de penser. Hein? On est très centré sur nos vies. Ah, Seigneur, pense à ce que tout ce que je vais perdre, là, ma vie devant moi, là, j'ai une carrière prometteuse, j'ai des enfants, c'est affreux ce qui va leur arriver, pense à eux autres, puis ainsi de suite, faut que je les protège, faut ci, faut ça. On est très, très centré sur nous. Puis regardez le peuple, quand les 12 parlent, là, c'est quand même intéressant au chapitre 13. Puis là, il dit au verset 31, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrivèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons... parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux, là, ils ont été comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils se disent, c'est affreux, on ne peut pas y arriver, c'est fini, on n'a pas la capacité, nous, on n'a pas la capacité de faire ça. Nous, on n'a pas la... Ensemble, nous autres, ça nous saute d'en face. Ensemble, c'est évident, là, ce que tu fais, c'est affreux. Fais donc confiance au Seigneur. Fais confiance en ses promesses. Hein? On a la parole de Dieu. C'est rempli de promesses. Puis il faut qu'on leur fasse confiance. Hein? Seigneur, il dit qu'il va nous protéger. Seigneur, il dit qu'il Seigneur est tout puissant. C'est lui le souverain. Et puis Seigneur, il permettra pas qu'il arrive une tragédie dans ma vie, voyons. Parce que s'il arrive une tragédie, je vais perdre ma maison. S'il arrive quelque chose, je vais perdre de mes enfants. S'il arrive quelque chose, je vais perdre ma validité. Je vais devenir invalide. Ça va être affreux. Ça va. Je ne veux pas minimiser ces choses-là. Ce n'est pas ça que je veux faire ce matin. Parce que l'élément ici, c'est que on a tous des choses à nos vies auxquelles on tient énormément. On a un système de valeurs qui est bien établi, que la société a bien construit, que notre éducation a bien construit. Il y a des choses dans nos vies qui sont pour nous très, très, très importantes. Il y en a, ça va être avoir un bon travail, avoir un bon salaire. Il y en a, ils aiment ça quand ils s'assient, là, que leur portefeuille là, qui est en arrière, ça s'assied un peu comme ça. Là. Ça s'assied un peu tout croche. Ça prend un bon travail, ça prend des bons revenus, c'est super important. Et puis là, si je perds ma job, c'est la fin du monde. Comment je vais faire pour vivre? Je vais perdre ma maison, je vais perdre mon bateau, je vais perdre... On a toutes des valeurs, on a toutes des choses à lesquelles on tient énormément. Puis Israël, il y en avait un aussi, là. Il voulait pas mourir. Hein? C'est la guerre, là. C'est pas rien, là. Ils vont affronter des géants, des personnes qui sont deux à trois fois leur hauteur. Je ne sais pas exactement, mais c'est affreux. Leur vie est en danger. Et puis là, il y a un problème. Puis là, il faut absolument trouver une solution parce que là, la montagne est bien trop grosse, puis il faut que je trouve un moyen absolument. Fait que là, je suis prêt à scraper tout mon vécu, toute mon expérience avec le Seigneur. Je suis prêt à tout scraper pour ne pas faire face à ça parce que c'est bien trop gros. C'est ben trop gros. Moi, je suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Puis vous ne le serez jamais. On ne le sera jamais capable. Jamais, jamais, jamais. On ne sera jamais capable de faire face à des épreuves aussi grosses. Il y en arrive des tragédies, des choses affreuses dans nos vies, puis parfois même à des personnes qu'on aime, des personnes qui sont chères à nos cœurs. Puis il y a beaucoup de personnes ici dans la salle qui ont beaucoup plus d'expérience de vie que moi, puis qui ont vécu des choses beaucoup pires que ce que moi j'ai jamais vécu jusqu'à présent. Je ne veux pas minimiser ces choses-là aujourd'hui. C'est pas ça que je veux faire. Mais il faut qu'on prenne exemple de ce que le peuple d'Israël a fait. Il faut qu'on en tire des leçons. C'est pour ça que ça a été écrit. Dans 1 Corinthiens, c'est ça que ça nous dit. Paul, il va reprendre ces paroles-là, puis il va dire ces choses-là nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Puis il dit une chose aussi, pour compléter. Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ça, c'est des paroles d'encouragement. Est-ce que ça vous encourage pour de vrai? Des fois oui, des fois non, hein? C'est une chose de le dire, c'en est un autre de le vivre. Hey! Exode 15, ça me c'est ça, ouais. Exode 15. Écoutez, là, c'est le peuple d'Israël qui parle. Ça dit, je pense que c'est verset 16. C'est le peuple d'Israël qui vient de traverser la mer Rouge. Et puis là, il chante un hymne au Seigneur. Verset 18, ça dit, l'Éternel règnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché au sec au milieu de la mer. Puis là, Marie se prosterne. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle dans les tambourins en dansant. Marie répond aux enfants, « Chantez à l'Éternel, car il fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Puis ils disent, « Seigneur est digne, verset 11, « Seigneur est digne de louange. Il opéra des prodiges. Tu as étendu éternellement ta gloire. L'Éternel les a engloutis pour qui ta miséricorde te soit conduit. » Ils ont vu des choses extraordinaires. Puis là, ils ont confessé de leur propre bouche, « Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant, ta gloire resplendit. » Et puis là, ben, arrive l'épreuve, puis c'est comme s'ils ont tout foutu ça à l'eau. Des fois, ce que nos paroles confessent, puis ce qu'on a dans le cœur, des fois, c'est deux choses. Faut en être conscient. Faut en être conscient. Des fois, c'est pas une mauvaise intention. On veut que ces paroles-là nous encouragent. Avec l'épreuve, Seigneur, tu as prévu le moyen de m'en sortir. Seigneur, je veux m'accrocher à cette parole-là. Je veux m'accrocher à cette vérité-là. Mais souvent, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on le pensait. C'est beaucoup plus dur dans le vrai monde. On veut toutes que ces paroles-là soient vraies dans nos vies. Pas juste dans notre tête, mais dans nos cœurs. Mais comment faire? Comment faire pour que dans l'épreuve, je sois réellement heureux. Comme ça nous encourage à le faire dans Jacques. Jacques chapitre 1. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez propre à toutes bonnes œuvres, Seigneur. Parfait, accompli, sans faillir en rien. C'est des belles paroles. C'est des vœux pieux. Mais comment y arriver? Les épreuves semblent tellement grosses. C'est des géants. Dans l'histoire, il y a un personnage qui se distingue des autres. C'est qui? David et Goliath, mais là, dans l'histoire de Nombre, là. Nombre 14, je me promène un peu partout, mais là, on revient. C'est Caleb. Il me semble que c'est un beau nom, ça. C'est Caleb. C'est qui ce fou-là qui se lève? Au verset 30 du chapitre 13, Caleb fit taire le peuple, 2 millions de personnes, qui murmuraient contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Verset 14, chapitre 14, verset 9, 8, verset 8. Il se lève comme un héros, on le voit dans les films, le moment est dramatique, c'est affreux, puis là, paf, il y a un héros qui se lève, puis qui dit, « Allons-y, on va gagner. » Puis là, c'est Caleb. Seulement, 8, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel, comme Dieu nous l'avait promis. Dieu est bon. Faites confiance, Seigneur veut nous donner ce pays-là. Puis il prend soin de nous, il nous amène... Dans le meilleur pays, il n'y en a pas d'autre de mieux que ça. Verset 9. « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne craignez point. » La suite de l'histoire est pas nécessairement comme dans les films d'Hollywood. Là. D'habitude, là, ça se finit, puis là, il est vainqueur, le peuple y va, puis on y va. Mais non, là, ils ont pris des roches pour le lapider. C'est un peu un contraste. Mais, wow! Il se lève contre 2 millions de personnes, puis il dit, « Seigneur est bon, c'est un pays où coule le lait et le miel. Il nous a promis qu'il nous l'a donné. » Il l'a dit, puis checkez ça. « L'Éternel est avec nous. » Ne les craignez point. Un homme qui a confiance en la parole de Dieu, un homme qui a confiance en la bonté de Dieu, et un homme qui a confiance en la puissance de Dieu. Trois choses importantes ici, qu'on doit rechercher aussi dans nos vies. Et puis, regardez comment est-ce que Caleb voit l'épreuve qui est devant lui. Verset 9 encore. Car ils serviront de pâture. Le mot ici était traduit par pâture. Dans certaines versions, c'est par pain. Le peuple qui est là, il va nous servir de bouffe. On va le manger. Puis quand on mange, c'est quoi que ça fait? Ça nous redonne de l'énergie. Ça nous redonne du pep. Du pep, pas du pep. Ça nous redonne du pep. Hein? Quand on mange... Naturellement, on a un regain d'énergie. Hein? Puis il dit, ce peuple-là qui est devant nous, là, ben on va les bouffer. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Hey, n'est-ce pas merveilleux de voir une épreuve aussi grande, insurmontable, comme étant un repas qui nous est servi par l'Éternel? C'est Dieu qui les a emmenés là. C'est Dieu qui leur demande de rentrer dans le pays. C'est un repas que le Seigneur leur a dressé. Puis il dit, allez-y, bouffez, il y en a en masse, c'est des géants. Hein? Prenez-moi pas littéral, là. Hein? C'est incroyable, la vision que Caleb avait de l'épreuve qui était devant lui. c'est un repas spirituel qui est devant nous. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un repas spirituel. Dieu nous donne l'occasion de faire confiance en sa parole. Dieu nous donne l'occasion de faire confiance en sa bonté, puis Dieu nous donne l'occasion de faire confiance en sa puissance. Wow! S'il n'y aurait pas d'épreuve, comment est-ce qu'on pourrait voir ces choses-là à l'œuvre? Jamais. Les épreuves sont là pour une chose, nous fortifier dans notre foi, nous faire grandir. Mais des fois, il faut juste changer nos lunettes. Moïse avait les bonnes lunettes. Moïse, il avait la vision de Dieu sur la situation. Caleb et Josué aussi. Mais le reste du peuple, il avait les lunettes de ce monde. Où est-ce qu'on est centré sur nous? Nous n'avons pas la capacité. Ils sont bien plus gros que nous. On n'y arrivera jamais. C'est impossible. Dieu veut notre mort. Il est malade. C'est bien trop gros. Il faut mettre les lunettes de Dieu. Puis voir les épreuves comme Dieu les voit dans nos vies. C'est pas facile. Mais là, ici, c'est une épreuve de foi. Oui, il faut se jeter en bas de la falaise. Faire confiance au Seigneur. Oui, il faut perdre le contrôle, ce qu'on aime tellement garder. Il faut perdre le contrôle. Ben oui, il faut laisser le Seigneur au volant. Facile à dire, plus dur à faire. Oui, il faut accepter de perdre le contrôle, puis si on perd le contrôle, tout peut arriver. Ce que vous avez de plus précieux peut disparaître. Oui, ça peut arriver. Vous pouvez peut-être, peu importe la situation dans laquelle vous vivez, peut-être la pire affaire que vous vous imaginez devant la tentation, ça peut peut-être, devant l'épreuve, ça peut peut-être arriver. Ben oui. Mais même si ça l'arrive, pensez-vous que le Seigneur est encore souverain? Épreuve de foi. Est-ce que ça vous tente d'avoir une foi virile comme celle de Caleb? Puis plus tard dans Josué, verset chapitre 14, on voit Josué, Caleb qui est là, qui va voir Josué, puis il dit, « Hey là, c'est le temps là, c'est le temps. Le pays que Dieu m'avait promis là, je vais aller le chercher. Donne-moi-les, je le veux tout de suite. Puis inquiétez-vous pas, on va les avoir. » Puis il n'a pas choisi le plus petit peuple, il a choisi la vallée d'Hébron, la région d'Hébron, et puis c'était reconnu pour être les fils d'Anak, les géants étaient là, c'était des villes fortifiées incroyables à prendre. C'est inhumain, mais pourtant, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que c'est lui qui l'a fait? C'est Dieu qui l'a fait. Puis ça, Caleb le savait très bien. Caleb le savait très bien. Les épreuves sont un repas que Dieu nous sert. Mais il faut savoir en prendre. Prendre ces repas-là. Il y a une chose qui attire mon attention aussi. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable... Si l'Éternel nous est favorable et nous mènera dans ce pays. Puis après ça, verset 9, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Si l'Éternel nous est favorable. Puis après ça, Caleb dit, ne soyez point rebelles. Ça veut-tu dire qu'on a une part de responsabilité là-dedans? Notre attitude, notre cœur, nos intentions, Dieu voit tout. Ne soyez point rebelles, faites confiance, allez-y, lancez-vous. Puis, Caleb avait les lunettes de Dieu, il avait vu le Seigneur marcher devant lui pendant maintenant 2 ans, il avait vu la mer se séparer. Il savait ce en quoi son Dieu était capable. Il lui faisait confiance. Et puis, il y avait une juste vision de qui Dieu était. Il avait vu cette puissance-là à l'œuvre. Il avait vu le Seigneur prendre soin d'eux autres. Il l'avait vu à l'œuvre. Il avait vu que Dieu accomplissait ses promesses. Il avait promis qu'elle allait les faire sortir du pays d'Égypte, puis il l'a fait. De façon incroyable. Caleb, il avait une juste vision de qui Dieu était, et puis c'est à travers les épreuves qu'il l'a acquis. À travers les expériences de vie, sur le terrain. Les épreuves que l'on vit nous servent aussi à avoir une juste vision de qui Dieu était. Puis quand plus qu'on réalise qui Dieu est, qu'est-ce qui arrive, Dieu monte là, puis nous autres, on prend notre trou. Hein? Et pour ça, ça prend quoi? De l'humilité. Avoir une juste vision de qui Dieu est, ça nous rassit dans notre siège. Puis c'est ce que Dieu veut. La gloire qu'il a, il la mérite. Trop souvent, on est égal à égal avec le Seigneur, puis on juge les actions de Dieu comme on jugerait les actions d'un ami. N'oubliez pas, Dieu est là. Il y a une vision de la vie complètement différente de la nôtre. Complètement différente. Complètement différente. Il faut savoir mettre les lunettes de Dieu, l'accepter, faire confiance, marcher dans les voies du Seigneur comme Caleb. Le fait, il faut avoir une juste vision de qui Dieu est. L'humilité. Ça prend de l'humilité dans nos vies. Des fois, on est tellement fier de penser à comment est-ce qu'on aime Dieu. Hein? Ça vous arrive? On aime le « Ah, moi j'aime le Seigneur. » Oui, moi j'aime le Seigneur. Je l'aime beaucoup Dieu. Ouais. Voyez-vous un problème dans les paroles que je viens de dire? Je l'aime Dieu. Ah, moi j'aime Dieu. Ah, je fais ça parce que j'aime Dieu. C'est parce que j'aime Dieu. Entendez-vous le mot qui cloche? Parce que j'aime Dieu. On est trop souvent concentré à l'amour que nous avons pour Dieu au lieu de regarder à l'amour que Dieu a pour nous. Si on est constamment préoccupé par « Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que j'ai lu ma Bible aujourd'hui? Est-ce que j'ai prié aujourd'hui? Est-ce que j'ai parlé du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ci? Ah, le Seigneur m'a donné l'occasion aujourd'hui, je ne l'ai pas pris. Ah, zut, bon, ouais, je ne pourrais pas cocher cette case-là. Merde. » Fait que là, à la fin de la journée, on prend ce qu'on a fait, puis on les amène devant Dieu. Et puis là, regarde, Seigneur, ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui, en ton nom, Seigneur, aujourd'hui, j'ai fait ça. Regarde comment je t'aime. Hein? Mais là, je peux être devant toi aujourd'hui, là, puis j'ai pas de problème. Orgueil, fierté. Une base d'opération parfaite pour Satan dans nos vies. L'orgueil et la fierté. Base d'opération parfaite pour que Satan puisse nous utiliser comme il veut. Hein? Même chez les croyants. Pensez-vous que le peuple d'Israël ne connaissait pas Dieu? Hey, ils l'ont vu marcher pendant 2 ans devant eux autres. Ils l'ont vu de leurs yeux vus. Le pain tombait du ciel tous les jours. Capotant. Pensez-vous qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Ils connaissaient Dieu. Mais est-ce qu'il y avait Dieu dans leur cœur? À quoi qu'ils étaient plus attachés? Choses de ce monde, leur bien-être, leur confort, ou la gloire de Dieu. Ils étaient plus préoccupés par leur gloire que la gloire du Seigneur. Dieu était comme peut-être une carte, un avantage, une fierté pour eux autres. Et nous autres, on a le Dieu vivant dans notre bord, notre côté. Ça, c'est hot. C'est pour ça que moi, je suis là. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un de puissant, puis vous autres, vous ne l'avez pas. Nous autres, on l'a. Il y a de la fierté là-dedans. Nous autres, on connaît le Seigneur. Nous autres, on a la vérité. Nous autres, c'est de l'orgueil, ça. Pensez plus à comment Dieu nous aime. Ça nous ramène à notre place. Ça nous fait dire, Seigneur nous aime malgré ma rébellion, malgré mon orgueil, malgré ma fierté, malgré le nombre de fois où je l'ai laissé tomber, malgré tout ce que j'ai fait. Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes. Des fois, même moi, je ne suis même pas capable de m'aimer par moi-même. Je ne même pas capable de m'aimer. Ce que j'ai fait est trop dégueulasse. Mais Seigneur, tu m'aides quand même. Tu m'aimes quand même. Tu es là, tu me pardonnes. Tout ce que tu veux, c'est que j'aille au pied de la croix, que je me repente. Dans l'histoire, est-ce que vous voyez la repentance? Et celle de Moïse, oui. Mais si on continue, verset 14, verset 39 à 45, « Moïse rapporta toutes ces choses. » Dieu vient de donner la conséquence, puis il leur demande de partir vers la mer Rouge. « Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici! Nous monterons au lieu dont Dieu a parlé, l'Éternel, car... » Excusez, nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel encore? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites, les Canaïens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors ils descendirent, et les Amalécites et les Canaéens qui habitaient cette montagne, ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Pour moi, ils ont manqué une partie du chapitre. Autour du verset 25, où est-ce que Dieu leur dit « Allez vers la mer Rouge ». C'est-tu de la repentance, ça? « Ah, Seigneur, je m'étais trompé tantôt, là, c'est correct, je vais y aller, là, cette fois-là, je vais avoir la bonne attitude. » Encore là, ils n'ont pas compris. Ils veulent encore se sauver la face. Il faut que ça paraisse bien, Seigneur, maintenant, on va le faire ce que tu nous demandes. Or, on n'a pas bien agi, je te demande pardon, puis... c'est pas une vraie repentance. L'humilité, Seigneur... Invitez le Seigneur à vivre les choses avec vous. Dieu n'est pas un général qui donne les ordres puis qui regarde à la fin la liste. Est-ce que tu as fait tout ce que je t'ai demandé aujourd'hui? Hein? Je t'ai mis des opportunités, je t'ai mis dans une place. Est-ce que tu as tout fait ça aujourd'hui? Hein? C'est pas un général de même. Il dit à la place. Je mets ça devant toi aujourd'hui. Est-ce que je peux venir le faire avec toi? Est-ce que tu m'invites à venir le faire avec toi? Je veux t'accompagner, je veux t'aider, je veux le faire à ta place. Puis tu vas voir, à travers le chemin, on va apprendre plein de choses. Tu vas apprendre à me connaître. Tu vas apprendre qui je suis. Puis les choses qui vont t'arriver devant toi, là, tu vas voir, les épreuves, les choses que tu vis, les souffrances, les tristesses, tu vas voir, on va les vivre ensemble. Tu vas apprendre à me connaître. Les épreuves, ça va être comme un repas. Tu vas en être fortifié, tu vas en être solidifié, tu vas apprendre à marcher encore plus avec moi, tu vas être encore plus dépendant de moi. Puis quand que je vais te dire là, la promesse, là, tu vas dire, inquiète-toi pas. Il y a une épreuve devant toi, là, mais avec l'épreuve, tu vas voir, il y a quelque chose au bout. Puis avec l'épreuve, j'ai aussi préparé le moyen d'en sortir, tu vas voir, fais juste moi confiance, fais juste moi confiance. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire, puis je pense qu'à travers ce texte-là, on en a un exemple flagrant. Souvent, on agit souvent comme le peuple d'Israël. On est attaché beaucoup à nos choses à nous. Puis on oublie de mettre les lunettes du Seigneur. Allons devant Dieu. Il faut se repentir, mes frères, mes sœurs. Hein? Ça prend de l'humilité. Il faut reconnaître que le Seigneur, souvent, on fait les choses pour toi, Seigneur, mais... on veut faire, tu nous demandes de faire les choses avec toi, en ton nom, par ta puissance et non mes capacités. Allons en prière. Seigneur Dieu, tu es grand. Tu es juste. Tu es fidèle. Tu es bon. Tu es tout puissant. Seigneur, que ces vérités ne soient pas juste des mots, Seigneur, dans notre tête, mais qu'elles soient vraies dans nos vies, Seigneur. Que lorsqu'on les entend, ça nous réchauffe le cœur. Que ça nous rappelle les moments, Seigneur, difficiles qu'on a traversés avec toi. Que ça nous remplisse de joie, Seigneur, parce que tu nous as soutenus tout au long de cette épreuve-là. Puis qu'on s'en est sortis, grandis, Oui, peut-être, Seigneur, qu'on a eu des pertes au niveau terrestre. On a peut-être perdu la face une ou deux fois dans les situations, ou peu importe, mais ce qui est important, Seigneur, c'est devant toi. Puis donne-nous de le comprendre, que ces paroles-là soient vraies dans nos vies, Seigneur Dieu. On te le demande, par nos forces, on n'est pas capable de l'accomplir. Je ne suis pas capable, Seigneur, de faire ces choses-là par moi-même. Je ne suis pas capable de créer l'amour en toi par moi-même. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que tu attaches mon cœur au tien, Seigneur. Par moi-même, je ne suis pas capable. Que ces épreuves-là que tu mets devant nous soient des moyens, des occasions qu'on a, Seigneur, de se rapprocher de toi et non de s'en éloigner, de se rebeller, d'endurcir nos cœurs. Seigneur Dieu, c'est en toute humilité qu'on te demande ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.